décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 1, salut Christian.
Salut Luc.
Eh bien, nous ne sommes que tous les deux, puisque Manu et Magali ont décidé de prolonger leurs vacances.
Et Iris a beaucoup de travail.
Nicolas, oui. Il n'y a pas de revue de presse.
Oui, bon, bah, ce sont les vacances. Hein,
donc il n'y avait pas grand-chose.
Par contre, il y a un sujet très d'actualité.
Qui est celui des étrennes. Donc du coup, tu as fait toi ta propre revue de presse, ta propre sélection d'articles qui parlent de donner des sous aux libres. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
Effectivement, c'est un sujet qui revient dans plusieurs journaux, dans plusieurs articles. Typiquement, ZDNet a un article titré « Logiciels et connaissances libres pour les dons, c'est maintenant et toute l'année » par Thierry Noisette. Ils ont un autre article qui s'appelle « L'Union européenne finance la chasse aux bugs dans 15 logiciels libres »
par Thierry Noisette également.
Il y a dans développer.com, Richard Stallman, la Free Software Foundation, a reçu 2 dons d'1 million chacun qui permettra de continuer à promouvoir le logiciel libre,
Youpi,
par Jonathan. Et dans numerama.com, il y a Mozilla souhaite doubler son aide financière à l'égard du logiciel libre.
Alors, par Linux Julien Lausson. Également,
ouais. Et on peut citer aussi donc Linux FR, Benoît Cibot nous fait un article assez complet sur le sujet du don au projet libre. On peut citer aussi la question qui était posée dans un article de Le Monde sur la problématique du financement des projets libres.
Bon, cette saison, tout le monde demande des sous, toutes les associations de l'informatique libre d'une part, et dès lors qu'on est sensible à d'autres sujets, on sait bien qu'on est sollicité de toutes parts. Et du coup, il y a ce côté un petit peu embêtant, c'est que d'un côté, on a envie de bien faire, et de l'autre, on sait qu'on ne peut pas donner à tout le monde, et qu'on doit se fixer une limite. C'est un côté un petit peu vain, cette histoire-là. En tout cas, c'est l'impression que ça donne.
La question qu'on vient de se poser, c'est pourquoi financer les logiciels libres ?
Alors pourquoi ? Parce que dans le logiciel libre, il y a plusieurs univers. Il y a des gens qui vont, notamment dans le milieu professionnel, être payés pour ça, dès lors que leur entreprise trouve un intérêt à le faire. Mais il y a énormément de développeurs qui sont des bénévoles ou quasi-bénévoles qui travaillent avec très très peu de moyens. Et forcément, d'un point de vue purement matériel, quand on est une poignée de gens qui bossent sur son temps libre et qu'on est confronté à un logiciel propriétaire où il y a 100 ou 150 développeurs qui travaillent à plein temps dessus, il y a un moment où on arrive à une limite, nécessairement, avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas compenser ça. Il y a également des développeurs de logiciels qui servent aux professionnels qui sont des bénévoles.
Et même, il y a des parties entières de l'économie et des entreprises qui reposent sur des logiciels. Typiquement OpenSSL, par exemple, qui a fait vraiment l'actualité en 2014, parce qu'il y avait une faille qui mettait en danger tous les sites web, et qui est, lui, développé par une fondation qui n'a pas beaucoup de moyens, et tellement peu de moyens, que le responsable de la fondation a indiqué que la faille venait du fait que ils n'avaient pas assez d'argent pour mettre plus d'une personne pour s'occuper du projet, alors qu'il y avait beaucoup de travaux à faire.
Voilà, alors suite à cette affaire, il y a plein de boîtes qui ont mis de l'argent pour qu'ils aient les moyens de bosser,
oui.
Mais à côté de ça, il y a plein d'autres logiciels qui sont développés par des gens dans leur coin, qui ne sont pas nécessairement payés, et donc tout ça...
Ça crée une distorsion, une grosse distorsion, parce que du coup, les entreprises qui développent, ils ont des moyens et qui développent donc avec des grosses équipes, des logiciels, ces logiciels ne sont pas forcément libres et donc vont prendre la place, vont s'insérer, vont enfermer les utilisateurs et ça crée une distorsion qui se retourne contre les utilisateurs.
Alors les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, sont assises sur des centaines de milliards.
Oui, alors les chiffres sont assez hallucinants. Apple, pour le dernier exercice fiscal, juste sur une année, le bénéfice est de presque 60 milliards de dollars.
Et on parle de bénéfice, hein.
Oui, le bénéfice, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans la poche après toutes les dépenses. Google a fait en 2017 un bénéfice de 26 milliards de dollars. Bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Google a 100 milliards de dollars en cash dans sa tirelire. Voilà. Bon, Microsoft, ils sont en 2018 à 16 milliards de dollars. Bon, il se trouve qu'ils ont aussi donné 13 milliards de dollars pour une taxe au passage, mais sinon, ils avaient 30 milliards
de
bénéfices.
Parce que ces entreprises ont tendance à stocker leur argent en dehors des pays, et notamment des États-Unis, pour ne pas payer d'impôts, puisque, et on a le même problème en France, notamment au niveau d'Apple qui se fait houspiller par attaque. Pour qu'ils payent leurs impôts, mais ce n'est pas les seuls à faire de l'esquive.
Et Facebook était aussi à hauteur de 16 milliards. Donc là, on est face à des montants phénoménaux. Moi, j'ai envie de parler de tsunami financier, une puissance d'argent phénoménale. Avec ça, ils pourraient embaucher tous les informaticiens de la planète, sans problème.
Oui.
Et du coup, il y a une disproportion de moyens par rapport au développement. Parce que cet argent, ils vont la mettre quelque part.
Ouais.
Ils vont, ça va aller quelque part et ils vont s'en servir à quoi ?
Bah, on n'en sait rien. Peut-être juste à payer leurs actionnaires à devenir très riches. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ces milliards, c'est les nôtres, au final. Parce que si on met de côté Apple, où il faut effectivement acheter des produits Apple pour enrichir Apple, on a le choix. Mais sur le reste, Facebook fait du pognon avec les données des gens et en vendant de la publicité. Google, même chose. Microsoft vend aux entreprises et dans toutes les boîtes où on bosse, c'est quand même très difficile d'y échapper. Et donc, qu'on le veuille ou non, on est dans le système. C'est-à-dire que, notamment sur toutes les boîtes qui fonctionnent avec la pub, on la paye tous. Et même si on ne la regarde pas, même si on n'est pas sur Facebook, même si on n'a pas de compte Google, etc., quand on va acheter nos nouilles au supermarché, le vendeur de nouilles, il a payé un budget pub, et son budget de pub, il est intégré dans le prix de son produit. Et donc, il suffit que le système, ils y croient, et que suffisamment de gens rentrent dedans pour qu'on le paye tous. Et donc, d'un côté, on a du libre qui est en train de vivoter avec beaucoup de développeurs bénévoles, et de l'autre côté, notre argent, parce qu'on ne contrôle pas, parce qu'on est dans un système économique sur lequel on n'a pas la main, va dans les caisses de ces boîtes qui nous enferment et qui sont dans une logique d'asservissement numérique.
Oui, mais les GAFAM ne font-ils pas de l'open source ?
Et oui, et c'est là que c'est terrible, c'est que les GAFAM n'existeraient pas, alors hormis peut-être Microsoft, mais qui finalement a changé son fusil d'épaule.
Microsoft a reconnu qu'il ne pourrait pas survivre sans faire de l'open source.
Oui, parce que le contexte a changé. Mais il n'y aurait pas de Google, il n'y aurait pas de Yahoo, même s'ils sont en train de se planter, il n'y aurait pas d'Amazon, il n'y aurait pas de Facebook sans logiciel libre.
Pourquoi ?
Alors parce que s'il avait fallu qu'ils payent une licence propriétaire pour chaque base de données et pour chaque système d'exploitation de serveurs qu'ils déploient, ils n'auraient jamais été possible de décoller. Et aujourd'hui, de toute façon, ils ne seraient pas rentables. Et par ailleurs, ils ont besoin de bidouiller, donc de mettre les doigts dedans, parce qu'ils font des trucs très compliqués. Et donc ça, le libre leur offre.
Et ils ont compris tous les avantages du logiciel libre.
Parce qu'ils collaborent entre eux.
Et voilà, la mutualisation des coûts, c'est presque beau, sauf que...
Bah, c'est intéressant, quand on parle du capitalisme et tout ça, en disant ils sont là, ils veulent le pognon, bah, ils savent très bien travailler ensemble, ils ont cette intelligence, et il faut leur reconnaître. Et au final, les gens les moins intelligents là-dedans, c'est ceux qui sont enfermés dans ces systèmes-là, qui, eux, ne bénéficient pas de tous ces atouts. Tout le principe, s'ils veulent faire de l'argent, c'est d'enfermer les utilisateurs pour pouvoir en extraire un maximum d'argent. Moi, c'est cette petite formule que j'utilise, un peu provocatrice en conf de temps en temps, c'est de dire le logiciel libre, c'est le logiciel qui est trop bien pour vous, parce que bah, tout est fait pour que vous n'en bénéficiez pas, que vous ne bénéficiez pas des intérêts correspondants.
Donc ils ont basé leur développement sur du logiciel libre, mais leurs clients, leurs utilisateurs, parce qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas clients, eux, ils n'ont pas le droit à du logiciel libre. Ils sont face à du logiciel
à des services privateurs.
Voilà. C'est quand même fou.
Oui, et c'est là où on se dit qu'on est dans un système malheureux, enfin dans quelque chose qui tourne pas rond. On devrait être au contraire maître de tout ça. Alors derrière, c'est pas juste une question de gros sous. Enfin, les gros sous, c'est du pouvoir derrière. Si on prend la situation en Chine avec la surveillance sociale et la notation sociale, ça passe par un système qui est entièrement contrôlé. Il y a deux applis de paiement qui intègrent des réseaux sociaux, machin, etc. Donc il y a Alipay et WeChat. Le gouvernement chinois contrôle tout ça, et le système est devenu implacable. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'alternative, aujourd'hui, les Chinois, ils sont pieds et poings liés par ce système numérique qui commence à leur empêcher de voyager, à faire ceci, à faire cela.
Et ils ne peuvent pas en sortir. C'est fini.
Non, c'est fini, il n'y a pas d'alternative. Et puis, et c'est typique de ces genres de systèmes de surveillance, c'est que si on refuse d'y être, même si on a les libertés de le faire, on est immédiatement catalogué. Donc d'une part, on n'a plus accès à plein de choses, donc on est hors du monde. Et on a une grosse étiquette sur le dos, c'est « je suis hors système ».
Donc une dépendance totale, plus d'indépendance. Benjamin Bayard, un orateur du libre talentueux, cite souvent ce sujet pour dire que l'importance, c'est pas grave que les gens aillent dans Facebook, utilisent les services de Google, ils découvrent, et puis un jour ils vont s'apercevoir que ça leur convient pas parce qu'ils sont espionnés, ils sont monétisés, leurs données leur sont volées, entre guillemets, et qu'un jour ils voudront sortir de ce système. Et Benjamin Bayard, dans l'une de ses conférences, disait que ce dont il avait très très peur, c'est que les gens, quand le jour où ils voudront en sortir, ne pourront plus parce qu'il n'y aura plus d'alternative. Et donc, c'est très important, et donc c'est ce qu'il martèle, il faut continuer à développer des alternatives, et donc développer du libre. Et pour pouvoir développer du libre, il faut quoi ?
Il faut des sous, il faut des moyens, et il faut des gens qui travaillent dessus. Alors, on l'a dit, donner au projet libre, c'est super, c'est vraiment super bien. Mais quand on fait la balance entre les quelques dizaines ou centaines d'euros qu'on peut donner et les budgets colossaux que les GAFAM peuvent aligner, on se dit que bah, c'est un petit peu perdu d'avance. Donc il faut peut-être essayer de réfléchir à des systèmes alternatifs et peut-être institutionnels. Donc dans ta sélection d'articles, il y avait l'Europe.
Absolument, qui est consciente du fait qu'il y a des projets libres qui sont des biens communs utiles à tous et qu'il faut bah, les entretenir, les soutenir et donc financer, par exemple, la recherche de bugs dans ces logiciels qui sont des biens communs et qui vont être améliorés, mais pas améliorés pour une entreprise ou pour un secteur, pour tout le monde.
Voilà, c'est comme une sorte d'infrastructure numérique. Hein, les routes, elles sont publiques, elles sont financées par l'impôt, tout le monde en bénéficie et si on n'avait pas de route, ce serait le bordel. Alors, il y a toujours des trucs entre le privé et le public, je pense aux autoroutes par exemple, mais il y a cette reconnaissance de dire que c'est quelque chose d'intérêt public et qu'on a intérêt à maîtriser avec cette idée de bien commun. Moi, j'aime bien faire le puriste et parler de bien public dans le cas des données. Alors, on pourrait imaginer aussi, ça, c'est pas dans l'article, mais on pourrait imaginer que l'Europe, par exemple, se dote d'une fiscalité qui permette de ponctionner ces entreprises privatrices, hein, tous les GAFAM, etc., qui gagnent des milliards et qui sont très forts en évasion fiscale, pour financer une informatique dont on soit maître et dont on ne soit pas prisonnier.
Alors, pour l'instant, ils essayent de récupérer de l'argent auprès de ces grands groupes. Et c'est compliqué. Bah, je ne sais pas, pas forcément pour faire du logiciel libre derrière, mais ils essayent déjà.
Voilà, mais on serait tout à fait légitime à dire bah, on vous ponctionne, vous êtes dans un système où vous arrivez à enfermer les utilisateurs de privatisation en générant, et Benjamin Bayard pourra en parler, des déséquilibres dans Internet puisqu'on a des gros centres comme les YouTube et les machins. Et du coup, ça va un peu contre le fonctionnement naturel d'Internet, enfin naturel entre guillemets.
On peut aussi citer une des actions de l'Union européenne qui cherche à créer des alternatives puisqu'elle a financé une partie de Quant.
Oui, qui n'est pas libre ou partiellement, alors, mais ils disent qu'ils vont le faire.
Pas encore, peut-être.
On les attend. Souvent, ils disent on arrive. Donc, on espère qu'ils arrivent. Alors, moi, il y a un truc que je fais, c'est que je me fais offrir du logiciel libre à mon université.
Oh. Oui. Un cadal.
Voilà, alors j'aimerais un jour, peut-être si on a le temps, en faire un projet pour motiver les gens à faire la même chose. J'ai remarqué que souvent sur mes anniversaires, il y a des gens qui viennent, ils veulent pas venir les mains vides, c'est naturel. Ils savent pas trop quoi m'offrir. En plus, moi je suis un peu chiant parce que je suis jamais content de rien. Et donc plutôt que de me retrouver avec un bouquin que je vais pas lire parce qu'il est pas super intéressant et que quelqu'un l'a ramené parce que c'était rigolo, etc. Ouais, j'ai un bouquin dans ma bibliothèque qui s'appelle L'art de péter, par exemple. Ouais. J'ai ouvert, j'ai lu 3 pages, c'est sans intérêt. Et bien je dis, offrez-moi plutôt du logiciel libre. Il y a plein de logiciels que j'utilise et si vous voulez me faire plaisir, donner des sous à ces projets que j'utilise quotidiennement, et ce sera un bien meilleur usage de cet argent, et ce sera un vrai cadeau, un cadeau à d'autres aussi, mais du coup cet argent est bien mieux employé que d'acheter une connerie en plastique faite en Chine ou un truc comme ça.
Alors attends, ce que tu proposes c'est assez merveilleux, parce que du coup là on sait qu'avec un tel cadeau on te fait vraiment plaisir, mais en plus en l'offrant on se fait plaisir à soi aussi.
Oui, à condition d'être libriste, mais voilà, donc c'est pas mal. On peut également faire quoi d'autre?
Alors, on voit bien que l'Union européenne est un acteur public, mais il y en a d'autres. Il y a le gouvernement, il y a les collectivités locales, les mairies. Moi, je suis horrifié de voir que le maire de ma commune achète des licences Microsoft Office pour les pauvres de la ville, alors que LibreOffice est entièrement gratuit et qu'il pourrait le soutenir et qu'il pourrait en donner plus à plus de gens.
Oui, alors LibreOffice, typiquement un logiciel, enfin un projet où il y a vraiment très peu de moyens, et même les entreprises, il y a toutes les entreprises utilisent le logiciel libre aujourd'hui, quelle que soit la structure, tout le monde l'utilise au moins un petit peu. Et du coup, si on est dans un CE, si on a l'oreille de son patron, etc., on peut dire, on utilise du logiciel libre, on pourrait financer un peu. Et là, le patron, il va dire, ah oui, mais non, je peux pas mettre mon argent partout. On va dire, mais juste un peu. Si tout le monde donnait 10 euros par an à LibreOffice, eh ben, ils auraient plus de problème de sous. Et quand on a sa boîte, son patron, 10 euros, c'est rien. Il y a toujours une limite à laquelle il va finir par donner.
Pareil pour OpenStreetMap, ouais. Où il y a beaucoup de gens qui sont très contents de l'avoir trouvé suite à l'augmentation des tarifs par Google. Et donc, c'est important de soutenir les alternatives, parce que le jour où on en a vraiment besoin, ça permet d'éviter de tomber dans des pièges.
Et puis, ça fait sortir cette idée que c'est gratuit, donc c'est cool.
Mais un CE interlocuteur, il peut intervenir dans...
Auprès du patron, oui.
C'est impressionnant.
Dernier point pour moi, c'est aussi... politiser le sujet, c'est-à-dire que si on a activité militante, par exemple, on peut continuer à en parler, dire autour de soi, dans les associations, aux élus, c'est une question de maîtrise de nos moyens de communication, de tout ce qui nous relie, de ne pas se retrouver dans des systèmes fermés, et rabâcher, on a plein d'hybrides qui font ça partout, et c'est eux qui font vivre le mouvement, rabâcher qu'on doit être maître de nos outils, et petit à petit ça rentre, on l'espère, et un jour peut-être on arrivera à voir nos...
Le meilleur moyen de gérer sa dépendance, c'est de jardiner son indépendance. Et il y a bientôt des élections, donc n'hésitez pas à contacter les candidats. Donc là, j'ai ma casquette candidat FR de l'April qui ressort. Mais contactez les candidats, allez leur parler, allez leur dire. Ils sont réceptifs, ils savent ce que c'est maintenant et ils sont réceptifs.
Très bien. Eh bien, merci, Christophe.
Eh bien, bonne année, Luc.
Ah bah oui, bonne année. Et bonne année à tout le monde.
Salut.